Mondial Sport sur RFI. Cédric De Oliveira, Antoine Grenier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Nouvelle édition de Mondial Sport avec bien sûr le début des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, du rugby également, mais ça on en parlera un petit peu plus tard parce qu'on va s'intéresser au football et au grand début des Coupes africaines. Bonsoir Antoine Grenier.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
C'est donc parti pour 9 mois de compétition avec déjà des surprises dès le tour préliminaire aller qui a commencé aujourd'hui.
Et avec notamment El Merreir corrigé 3-0 par les Botswana de Township Rollers, formation de Gaborone. Un vrai coup sur la tête des Soudanais, demi-finalistes de cette Ligue des Champions en 2015, mais à qui il reste tout de même le match retour à Omdurman pour inverser la tendance. Autre petite surprise, cette fois le match nul un partout de l'Espérance de Tunis sur le terrain de l'Assac Concorde de Nouakchott. Les espérantistes quart de finaliste l'an passé, on le rappelle.
Dans les autres matchs, la logique a été plutôt respectée, Antoine.
Avec notamment l'expérience qui a parlé du côté de Niamey entre l'AS Fan et le Oroya de Conakry. Les Guinéens passaient tout près de l'exploit l'an passé en 16e de finale où ils avaient inquiété l'Espérance au match retour pour finalement céder 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Cette année, les joueurs de Victor Svinka ont parfaitement entamé la compétition avec un succès à l'extérieur, 3-1. L'entraîneur français était malgré tout frustré au micro d'Ousmane Keïta.
On a fait la différence très rapidement, donc on s'est donné le match là, beaucoup plus facile. Quand tu mènes 3-0 à l'extérieur, c'est quand même plus tranquille. Moi, je regrette un peu le but qu'on a pris, et puis en début de deuxième mi-temps, les nombreuses occasions qu'on a eues pour pas marquer ce quatrième but.
Et avec ce large avantage, la manche retour ne serait qu'une simple formalité pour le Oroya.
Il ne faut jamais s'aventurer dans ce genre de pronostic. C'est sûr qu'on a un large avantage en ayant gagné 3-1, mais il faudra être très sérieux parce que bon, on a vu leur deuxième mi-temps, ils ont voulu revenir au score, donc ils ont montré quelques qualités, donc il faudra être très sérieux et très appliqué la semaine prochaine.
Mais les autres confrontations entre équipes francophones ont abouti à des résultats qui préservent le suspense pour le match retour, avec notamment cette petite victoire de l'AC Léopard de Dolisi qui a dominé l'AS Togoport de Lomé 2-1.
Alors pour certaines équipes, il y avait l'enjeu de ce match, mais il y avait aussi le regard déjà tourné vers le prochain tour.
Ainsi, la confrontation entre le Rai Club de Kadiogo et le CF Mounana qui déterminera rien moins que le futur adversaire de l'Al Ahly du Caire en 16e de finale. Les Burkinabés se sont imposés 1-0 sur un pénalty d'Herman Sawadogo. Du côté du CF Mounana, Kevin Ibinga, l'entraîneur libre-villois, ressortait forcément un peu frustré de la rencontre.
C'est toujours difficile de perdre 1-0. Je préfère perdre 2-1 que de perdre 1-0. C'est toujours compliqué. On était venu pour pouvoir faire un résultat favorable. On a deux attaquants qui ont plus de 1m80, donc il fallait profiter de ça, de pouvoir éloigner le ballon de notre camp parce pour pouvoir se rassurer, parce qu'on savait qu'il fallait d'abord les contenir les 30 premières minutes. Ben, malheureusement, voilà, on a concédé ce pénalty-là qui nous coûte, je pense que sur le contenu aussi, à un certain moment, on se devait de pouvoir jouer, mais on a trop balancé. Mais ce que je retiens de ce match, c'est que on s'est créé les meilleures occasions, mais on n'a pas pu concrétiser. Donc ça donne l'espoir pour le match retour.
Kevin Ibinga, l'entraîneur du CF Mounana au micro de Gabriel Barrois. Autre gros client en vue des 16e de finale, c'est le Wydad Casablanca, tenant de cette Ligue des Champions, qui sera amené à affronter le vainqueur du Stade Malien face à Williamsville, le vainqueur de ce match. Suspense garanti, les Bamakois et les Abidjanais se sont séparés sur un nul, un partout. Égalisation à la dernière minute, à la 96e. Tout simplement une affaire d'état d'esprit selon Abiyao Kwasi, l'entraîneur de Williamsville, au micro de Mahamadou Kaloga.
J'ai marqué un but à l'étranger, égalisé dans les ultimes minutes. Je pense que contre une grande équipe comme le Stade Malien, je pense que c'est bon à prendre. Pour ceux qui suivent le championnat ivoirien, savent que le WAC ne s'avoue jamais vaincu. Nous avons fait 13 journées sans défaite. On a égalisé même être mené à 2-0. On a su remonter des scores en Côte d'Ivoire. Je pense que ça ne nous étonne pas du tout ce soir.
C'est que vous rend confiant pour le match retour?
Effectivement, parce que ça nous rend confiant et nous allons jouer à fond, comme ici, et pour mériter la qualification.
Abiyao Kouassi, l'entraîneur de Williamsville. Et puis à noter, il y a quelques instants, le carton de la soirée, la victoire de Difa El Jadidi, l'équipe marocaine, 10-0 face au Bissau guinéen de Benfica. Demain, suite de ce tour préliminaire aller de Ligue des Champions avec 12 rencontres, dont la première au Bénin, des Buffles du Borgou dans cette formule de la Ligue des Champions.
Alors le Bénin, Antoine, représenté également en Coupe de la Confédération par un club qui s'est imposé ce soir.
Energy Sport, une formation de Cotonou, elle a dominé le Afia de Conakry 1-0 avec un but de Guerra à la 42e minute. Une performance tactique surtout qui a satisfait Stanislas Akele, l'entraîneur béninois au micro de Félix Oundé Pepéripi.
On a joué librement, on a voulu attaquer, mais le système de jeu de l'adversaire, connaissant ce système, quand ils sont dans une position, on sait déjà ce qu'ils vont faire, ce qui a fait que ils n'arrivaient pas à développer les jeux. Vous avez vu, ils essaient de conserver là-bas dans le rond central, cherchant toujours la faille, mais ils trouvent pas, ils sont obligés de balader de gauche à droite parce qu'on était en place, on attendait. Ce que les enfants ont su respecter, maintenant c'est la reconversion de rôle, c'est-à-dire changer d'une position, c'est-à-dire la position défensive en position attaque, c'est ça qui a créé le problème. Et je pense que c'est le travail. Nous allons travailler cet aspect de la chose pour que ces enfants soient aguerris. Mais tout ça là aussi, c'est du fait que nous ne sommes pas en championnat et qui a fait ça là, parce qu'on a eu seulement 4 semaines pour préparer l'équipe. Et dans ces 4 semaines, vraiment, on a travaillé, on a bataillé et voilà le résultat.
Stanislas Akele, l'entraîneur d'Energy Sport. Du côté de la Côte d'Ivoire, en difficulté en championnat avec sa 16e place en Ligue 1, l'AS Standa ne sourit pas plus au plan continental. Triste match nul ce soir des champions de Côte d'Ivoire, 0-0 contre les Congolais du CS La Mancha. Willy Dagou Brito, le capitaine de l'AS Standa, déçu au micro d'Emmanuel Kofi.
On n'a pas pris de but à domicile et je pense que ce but qu'on n'a pas pris là va nous aider au match retour. Face à ce bloc compact là, nous on devait être un peu plus patient. On devait être patient, c'est-à-dire continuer le bloc, essayer de passer sur les extérieurs, procéder par des retraits, des centres, tout ça. Mais arrivé à un certain moment, on n'a pas été patient et on a essayé d'allonger, mais ça ne nous a pas souri. Mais on a encore 7 semaines pour travailler. Je pense qu'on a beaucoup de choses à régler défensivement, tant offensivement. Et je pense que jusqu'au jugé du match prochain, on sera dans notre bonne forme.
Willy Dagou Brito, le capitaine de l'AS Standa, champion il y a 2 ans évidemment. Autre résultat à signaler, la victoire de l'AS Maniema, club de RDC 1-0 sur la pelouse des Gabonais de Mangasport. Demain, on continue, 8 matchs en tout, et notamment les Ghanéens de la Sante Kotoko qui accueillent le Carabrazzaville et l'Africa Sport d'Abidjan face aux Mauritaniens du FC Nouadhibou.
Eh bien merci Antoine Grenier, suite de son tour préliminaire. Donc demain, on vous donnera tous les résultats. Des résultats, eh bien Martin Guez va nous en donner également. Bonsoir Martin.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Martin, vous avez suivi avec attention la 25e journée de Ligue 1 qui se poursuivait ce samedi. Et avant d'affronter le Real Madrid cette semaine en Ligue des Champions, le PSG a assuré nouvelle victoire en déplacement.
Oui, à Toulouse, cette fois-ci la 7e à l'extérieur depuis le début de l'année 2018. Les Parisiens qui avaient déjà la tête et certaines jambes au match de Madrid mercredi prochain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Avant d'affronter le Real, Unai Emery avait laissé au repos son buteur Edinson Cavani, son capitaine Thiago Silva et le milieu Marco Verratti, l'Italien, qui est entré en fin de match face à Toulouse, le temps de voir le Brésilien Neymar marquer le seul but du match. Une rencontre peu emballante, Marco Verratti qui était plutôt satisfait que son équipe ait bien négocié ce dernier test avant la grande échéance, mais maintenant, place à Madrid.
Ce match-là, c'est très important, il faut arriver prêt. On est content parce que dans les championnats, on va bien, on va tout bien. Et jusqu'à maintenant, on a fait un bon part de saison. Oui, je pense un peu pour tout, pour nous jouer, pour les supporters, un peu pour tout, pour les clubs. Ce sont des joueurs que tu ne joues pas souvent, ce sont des matchs que tu ne joues pas souvent. C'est contre une grande équipe, dans un grand stade, pour jouer quelque chose de vraiment important. C'est pour ça qu'on a tout envie. Mais il reste toujours un match de foot, il ne faut être pas très énervé, il faut jouer au foot parce que c'est la seule manière pour passer le tour.
Marco Verratti au micro de Canal+.
Eh bien, merci Martin Guez. Il y a d'autres résultats, mais on vous les donnera demain. Et on ouvre une large page Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent, vous le savez, tous les 4 ans. Cette année, les athlètes sont réunis à Pyeongchang en Corée du Sud, qui ont officiellement démarré ce samedi, même si certaines épreuves avaient déjà eu lieu avant l'allumage de la flamme hier. Et les premières médailles ont donc été distribuées. On va faire le point avec notre envoyé spécial en Corée du Sud, Christophe Diremzian. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Cédric.
Alors premier temps fort de cette journée, le sprint féminin en biathlon avec la victoire de l'une des favorites.
Et quelle favorite, une quintuple championne du monde en titre, l'Allemande Laura Dallmayr, impeccable dans cet exercice de 7 km 500 et malgré des conditions météo qu'on savait délicates, elle a réalisé un sans faute au tir, ce qui lui a permis de passer la ligne avec 24 secondes d'avance sur la Norvégienne Marte Olsbu et près de 26 sur la Tchèque Veronika Vítková et juste au pied du podium, Marie Dorin, 31 ans, la plus expérimentée des biathlètes françaises, double médaille olympique à Vancouver en 2010, 5 fois championne du monde également, mais qui a connu un début de saison tellement compliqué qu'elle a obtenu sa sélection in extremis pour son entrée en lice. Cette quatrième place, c'est donc malgré tout une belle performance, porteuse d'espoir pour la suite, même si elle pourra évidemment regretter sa faute au tir couché à cause d'un vent capricieux.
C'est pas facile de gérer le vent, coucher ça bouge énormément, ça déplace énormément les balles. On peut dans un même tir avoir des conditions de vent très fortes dans un sens et dans l'autre, ce qui nous éloigne du centre dans un sens et dans l'autre. C'est vraiment pas facile. Et du coup voilà, je sais pas quelle gestion on peut avoir par rapport à ça. Parce qu'en plus, plus on passe de temps derrière la cible, plus les secondes filent. Debout c'est pareil, il faut avoir de la chance aussi, il faut saisir son opportunité, il ne faut pas traîner, il faut savoir lâcher les balles et voilà.
Et Marie Dorin conserve une bonne chance de repartir de ses derniers Jeux avec une médaille supplémentaire à l'occasion de la poursuite, puisque les écarts au classement enregistrés sur ce sprint seront reportés au départ de cette nouvelle course. Et Marie Dorin n'a que 7 secondes de retard sur Vítková. Il y avait 3 autres Françaises engagées. Justine Brezaz a fini 10e, Anaïs Chevalier 16e et Anaïs Bescon 19e.
Alors Christophe, autre titre du jour en ski de fond féminin. Cette fois, la spécialité s'appelle le skiathlon.
Autrement dit, pour les nombreux non familiers de la discipline, 7 km 500 en deux boucles en style classique, puis la même distance en style libre après avoir changé de ski. Une épreuve remportée par la Suédoise Charlotte Kalla. Les Françaises, elles, ne visaient pas vraiment le podium. La meilleure s'appelle Anouk Fèvre-Picon. Elle a fini 13e. C'est un très bon résultat, d'autant qu'elle n'était pas attendue sur cette épreuve, qu'elle regrette juste de ne pas avoir mieux géré au départ.
C'est une sacrée course. Après, il y a toujours des petits mais. Alors voilà, je suis ravie de cette place. Après, je nourris quand même quelques regrets parce que sur la partie classique, il m'a manqué vraiment pas beaucoup pour accrocher le groupe de tête. Et je pense que la partie skating aurait été vraiment plus amusante pour moi parce que j'ai fait que de revenir. J'étais un peu toute seule au vent. J'emmenais un groupe de 4-5 athlètes. Et c'est vrai que voilà, dans le groupe, tout est plus facile. Ça reste un très beau classique par rapport à moi, mon niveau, par rapport à toutes les Scandinaves. Mais voilà, il en manque pas beaucoup et c'est ce petit pas beaucoup qu'il faudrait que je travaille par la suite.
Anouk Fèvre-Picon qui va se concentrer maintenant sur son véritable objectif, le 10 km classique, ce sera jeudi.
Alors on s'éloigne un petit peu de la montagne à présent pour parler des sports de glace et déjà les pays phares du patinage de vitesse en vedette, à commencer par la Corée du Sud.
Eh oui, ce sont des fondus de cette discipline ici, sans mauvais jeu de mots, et c'est un triomphe qui a accompagné le sacre de Yoon Jun Lim en short track, sur piste courte, donc sur 1500 mètres, devant le néerlandais Sinky Knecht, les Pays-Bas qui ont en revanche tout raflé sur le 3000 mètres féminin sur l'anneau de la vitesse.
Et puis Christophe, demain, le ski alpin fera ses grands débuts dans ces jeux avec l'épreuve reine, la descente masculine.
Oui, en tout cas, si le vent assez violent prévu en route de la piste de Jongsun entre 50 et 70 km/h annoncé n'oblige pas les organisateurs à reporter la course au dernier moment. Les favoris ont déjà pu se jauger à l'occasion des 3 séances d'entraînement. Le plus rapide de l'ultime test, c'est l'Autrichien Vincent Krichmayr. Mais derrière, il y a 2 poids lourds de la spécialité, les Norvégiens Kjetil Jansrud, médaillé de bronze à Sochi, et Axel Lund Svindal, vice-champion olympique à Vancouver. Et puis le 4e chrono est allé au Français Brice Roger, ce qui peut rendre optimiste le camp tricolore, d'autant que la France a su créer la surprise dans un passé récent avec les sacres de Jean-Luc Crétier en 1998 et d'Antoine Deneria en 2006, et que la piste n'est pas jugée très difficile par de nombreux concurrents, un constat un petit peu nuancé néanmoins par le président de la Fédération Française de Ski, Michel Vion.
Une piste de descente assez courte, 1 minute 40, c'est une piste où il n'y a pas trop de temps mort, en fait c'est toujours ou en virage ou sur des bosses, donc en l'air, des temps de suspension, donc c'est en fin de compte pas si simple que ça. C'est de la neige de culture qui est relativement sèche, donc c'est des neiges qu'on peut comparer aux neiges américaines, aux nord-américaines, Et là, en plus, la température de moins 15, moins 20 fait que ça assèche encore la neige. Donc, c'est des neiges qui sont assez faciles à skier, mais qui sont très difficiles à apprivoiser pour aller vite. La moindre petite faute de car, les petits appuis un peu trop fort, et hop, tout de suite, on perd la vitesse. Et on le sent d'ailleurs, on sent en tant que skieur, on sent que ça freine. Donc, c'est des neiges qui sont dures à apprivoiser, mais qui sont relativement faciles à skier. L'idée, c'est de bien s'adapter, de ne pas être trop violent, pas être trop brusque sur les appuis, et faire en sorte qu'on privilégie la glisse.
Le sentiment de Michel Vion à la veille probable, attendons quand même le verdict de la météo, de cette descente masculine qui sera forcément un petit peu particulière pour cette équipe de France, toujours marquée par la terrible tragédie du 13 novembre dernier, la mort de David Poisson lors d'une chute sur une descente d'entraînement au Canada. Brice Roger, mais aussi Adrien Théo, Johan Claret et tous les autres concurrents français de cette descente garderont à l'esprit leur ami au moment de s'élancer. Et puis demain, il y aura également du biathlon à nouveau, on retournera sur la piste d'Alpen avec l'entrée en lice de Martin Fourcade avec le sprint 10 km.
Eh bien, merci Christophe Diremzian. Allez vous recoucher puisqu'il est très tôt à Pyeongchang. On vous retrouve demain. On file, nous, à présent en Écosse pour vous donner des nouvelles du 15 de France de rugby qui affronte donc les Écossais pour la deuxième journée du tournoi Destination. Une semaine après sa défaite sur le fil face à l'Irlande, il affronte le 15 du Chardon à Murrayfield, le stade d'Édimbourg. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Eric Chorin. Bonsoir Eric.
Bonsoir Cédric.
Alors vous êtes donc à Édimbourg à la veille de ce Écosse-France et l'objectif pour les Bleus ce sera donc de se relancer dans ce tournoi.
Bah oui, quand on reste sur 8 matchs sans victoire, dont 7 défaites et un match nul face au Japon, on veut forcément mettre fin à cette série noire, série qui a coûté à sa place à l'ancien sélectionneur Guy Noves et qui s'est malheureusement poursuivi la semaine dernière avec cette défaite cruelle face à l'Irlande, 15-13, alors que la France pensait tenir la victoire après l'essai inspiré de Teddy Thomas. Mais la transformation ratée d'Anthony Bello, suivie par une énorme séquence de remontée du ballon par les Irlandais qui n'ont pris aucun risque mais ont placé Johnny Sexton dans la position idéale pour passer le drop de la victoire, a de nouveau coûté un succès aux Français. Première défaite donc du nouveau sélectionneur Jacques Brunel et de ses adjoints, dont celui qui est en charge des trois quarts, Jean-Baptiste Elissalde, qu'il concède pour se relancer. Rien de tel qu'une victoire en Écosse.
Oui, il faut gagner. Oui. Enfin, en général, on joue pour gagner. Oui. Voilà, ce qu'il faut, c'est refaire partir la machine. C'est pas chose simple. Et je pense qu'on a loupé une petite occasion la semaine dernière. Mérité ou pas, je sais pas. Mérité, je pense, parce que t'es pas dans les clous à la 80e comme ça, face à cette équipe-là. On a loupé une petite occasion d'ajouter un supplément de confiance à cette équipe.
Voilà, Jean-Baptiste Elissalde. Alors Eric, une occasion ratée face à l'Irlande et une défaite très dure à digérer. Les Bleus, y sont-ils d'ailleurs parvenus cette semaine?
Eh bien, écoutez, rien ne leur a été épargné, mais les joueurs du 15 de France disent que oui, malgré leurs trois blessés face à l'Irlande, le troisième ligne centre Kevin Gourdon, l'ouvreur Mathieu Jalibert et le demi de mêlée Antoine Dupont qui a été opéré jeudi, des ligaments croisés, malgré la gastro-entérite qui a traversé leur rang cette semaine, Marco Tolagne qui doit remplacer Gourdon demain, en souffrait d'ailleurs encore hier, malgré les entraînements sur et sous la neige à Marcoussis, ils disent avoir relevé la tête et être prêts à lâcher les chevaux face aux Écossais, le pilier Rabat Slimani.
C'est sûr que ça a été dur, mais je pense qu'on a digéré cette fin de match et on va garder ce qu'on a su faire la semaine dernière pour aller gagner en Écosse. S'il garde le ballon et qu'il va falloir défendre comme la semaine dernière, on le fera, mais c'est sûr, après, voilà, on va essayer de jouer un peu plus et surtout de se lâcher un peu plus, voilà, de faire ce qu'on sait faire et on l'a très bien fait l'entraînement, donc pourquoi pas un match.
Alors attaquer face à l'Écosse, c'est ce que les joueurs du 15 de France n'avaient pas réussi à faire face aux Irlandais, même s'ils avaient été plutôt solides en défense.
Oui, 253 plaquages effectués durant le match, dont 31 ont été l'œuvre du capitaine Guillaume Guirado. Ce sont des chiffres records qui illustrent bien la physionomie du match face aux Irlandais. Les Bleus ont défendu comme des vaillants. C'est d'ailleurs la principale satisfaction de ce match, même perdu face aux 15 au trèfle. Mais pour espérer gagner, il faut bien sûr aussi attaquer. Et face à des Écossais très joueurs, c'est à la fois leur force et leur faiblesse. En témoigne leur grosse défaite au Pays de Galles, 34-7 la semaine dernière. Il y aura plus de place pour le faire, pour attaquer, et les Bleus ont travaillé sur les questions à Marcoussis. On écoute Guillaume Guirado.
On a essayé de perfectionner le système défensif parce qu'il y a toujours des choses à redire, il y a toujours des choses à améliorer. Mais on s'est concentré surtout sur notre secteur offensif cette semaine avec le fait que d'une part le joueur se doit d'être plus présent sur la lutte au sol pour libérer des bons ballons et surtout les soutiens arriver plus proches mais plus intenses dans le rock. Donc énormément de boulot, après les systèmes sont en place, c'est juste l'exécution qu'il faudra réaliser à perfection.
Il n'y a plus qu'à Cédric, avec le retour en bleu après 6 ans d'absence de Lionel Boxis qui va tenir l'ouverture. Lionel Boxis et son énorme pied pour occuper le terrain.
Eh bien, merci Eric Chorin. On suivra ça avec vous demain sur RFI pour savoir si cette équipe de France va pouvoir se relancer. Bonne soirée à vous.
Merci.
Et pour être complet sur ce tournoi destination, Eric, sachez que l'Angleterre a remporté le choc face au Pays de Galles 12-6. Le 15 de la Rose partage la tête avec l'Irlande qui a surclassé l'Italie 56-19. Voilà, Mondial Sport, c'est fini pour ce samedi. On se retrouve demain à partir de 21h10, temps universel. Je vous souhaite une très bonne soirée.